Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
En cette soirée qui précède juste la veillée de Noël, nous allons ouvrir un dossier passionnant. Un dossier qui fait en même temps frissonner, qui fascine. Peut-être êtes-vous d'ailleurs allé voir avec vos enfants ou tout seul, si vous n'en avez pas, avec votre ami Eragon, nouveau film qui vient de sortir, l'adaptation d'un best-seller, très bon roman d'ailleurs que je vous recommande. Bref, qui raconte l'histoire de dragons et de dragonniers. Alors nous allons découvrir un petit peu l'histoire authentique des dragons avec Michel Meurger qui vient de publier « Histoire naturelle des dragons ». C'est aux éditions Terre de Brume. Michel Meurger, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes un spécialiste des dragons.
C'est un petit peu... Disons que je ne me considère pas comme draconologue, pour employer l'expression consacrée par plusieurs siècles. Non, je suis plutôt un spécialiste de l'étude et de l'imaginaire scientifique. C'est-à-dire que les dragons m'intéressent dans le cadre scientifique, donc en gros, si vous voulez, de la Renaissance au XVIIIe siècle.
Oui. Alors, on va commencer avec vous par l'origine du nom dragon,
voilà,
que j'ai découvert en lisant votre livre.
Oui, parce qu'en fait, il faut toujours remonter aux étymologies. En fait, notre terme dragon français vient du mot grec ancien dracon, qui est lié à la racine du verbe derkomai, qui impliquait la fixité du regard. Alors, en fait, c'était très lié aux sciences naturelles, c'est-à-dire que ce terme s'appliquait initialement à des représentants de la famille des colubridés, comme par exemple la couleuvre d'Esculape. Vous savez, cette grande couleuvre très impressionnante qui tue ses proies en les étouffant.
Oui.
Et alors, initialement, donc, c'est un animal réel qui a été, on lui a donné des traits mythiques, notamment les couleuvres aiment bien les atmosphères humides, aiment bien se situer près de l'eau, et donc les Grecs en ont fait l'agathos daimon, c'est-à-dire le génie du lieu, ce qu'on appellerait en latin le genius loci, de source fertilisante. Et il y a une chose intéressante, c'est parce que le dragon changera de morphologie à travers les siècles, mais ce rapport à l'environnement des sources et du monde souterrain, il ne changera pas.
Et alors, quand est-ce que c'est devenu dragon ?
Eh bien, vous avez donc plusieurs métamorphoses. Vous avez ensuite le passage du dracon des Grecs au draco des Latins, des anciens Romains.
Oui.
Et là, bon, ben, on peut dire que effectivement, les auteurs tardifs, comme par exemple Lucain, qui est un contemporain de Néron, dans la Pharsale, lui, il évoque des dragons volants déjà.
Oui.
Et ensuite, et c'est surtout Ovid dans les Métamorphoses qui décrit, vous faisiez allusion à Eragon, ben, on a un excellent combat d'héroïque fantasy dans la description par Ovid du combat du héros Cadmos contre le serpent de Mars qui est considéré comme un dragon. Et alors, en quoi il est différent des autres serpents? C'est que son dos sort d'une crête d'or. Donc, vous voyez, là encore, vous avez un attribut qui distingue le dragon du serpent commun. Alors, vous avez une magnifique description à laquelle je vous renvoie du combat du héros contre le serpent de Mars dans un site qui est très significatif parce que, dit Ovid, il se situe au milieu d'une forêt vierge, d'une Silvia Vetus, et donc près d'une caverne d'où sort une source. Donc là encore, vous voyez le rapport entre les sources, le monde souterrain et le dragon, le draco, là, en l'occurrence.
Oui, on retrouve les mêmes éléments. Hein,
on retrouve les mêmes éléments qui vont être repris à travers les siècles de par le succès d'Ovid dans la culture de la Renaissance, et ça durera des siècles. Hein.
Ouais. Alors, racontez-nous un petit peu quand même l'origine de cet animal. Comment est-ce qu'il est né dans l'imaginaire des différents auteurs qui l'ont décrit?
Ben, il change, il évolue énormément parce que le dragon qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la créature à forme de serpent avec des ailes de chauve-souris, elle se forme assez tardivement dans l'iconographie entre le 14e et le 15e siècle de notre ère.
C'est assez récent finalement.
C'est récent parce que ça n'a plus rien à voir sur le plan morphologique avec le dracon ni avec le draco, mais par contre ça a rapport avec les diables, c'est-à-dire que le grand iconologue Jurgis Baltrosaitis a montré que à l'époque où les diables commencent à acquérir des ailes de chauve-souris, les dragons aussi. Donc vous voyez, la forme du dragon au Moyen-Âge tardif commence à prendre les caractéristiques fantastique des films et des romans d'heroic fantasy. C'est une sorte de serpent avec une gueule de crocodile. Alors pourquoi une gueule de crocodile? Parce que à cette époque, on commençait à conserver des dépouilles de crocodiles ramenées de Terre Sainte dans les églises. D'ailleurs, vous savez qu'on en conserve encore, par exemple, à Cimiez ou dans d'autres régions de France et d'Europe, comme des sortes d'ex-voto. À la cathédrale de Séville, on conserve ce qu'on appelle le lagarto, c'est-à-dire en espagnol le lézard, qui est en fait un crocodile qui aurait été envoyé par le roi d'Égypte. Donc, vous voyez, finalement, c'est à partir d'éléments du réel que se constitue une créature qui pour nous est irréelle, mais qui pour les gens de l'Antiquité et ensuite du Moyen-Âge était une créature bien réelle qui vivait dans des confins. Alors pour Pline l'Ancien, c'est aux Indes par exemple, pour les auteurs des histoires naturelles, des bestiaires du Moyen-Âge, c'est en Afrique, en Abyssinie, aux Indes, mais... Et c'est là le sujet essentiel de mon livre. Certains auteurs commencent à dire, mais il y a
aussi des dragons chez
en
nous.
Europe.
Oui.
Il y a des dragons principalement. Alors dans quelle région? Si vous voulez aller les chasser pour Noël, il faut vraiment prendre la carte d'état-major. Donc vous découvrez sur la carte d'état-major effectivement toute la chaîne alpine, c'est-à-dire des Alpes suisses jusqu'aux Carpates. Alors les Carpates de Dracula. Avant de parler en fait de vampires, on parlait de dragons dans les Carpates. Pourquoi? Parce que à partir donc de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, c'est une région disputée entre les Turcs et les États chrétiens, et donc c'était une zone de frontière. Et vous savez, dans les frontières, dans les marges, on situe beaucoup de créatures extraordinaires, et là on situait des dragons particulièrement sinistres.
Oui, juste avant donc le tristement célèbre Vlad Tepes Dracul, qui a sévi à cette frontière.
Et lui, en fait, il avait... était en rapport avec le dragon.
Oui,
parce
bien
que,
sûr.
Il avait été...
Bah, Dracula.
Il a été décoré de l'ordre du dragon renversé, et le dragon l'a symbolisé les Turcs. C'est-à-dire le grand ennemi, l'ennemi héréditaire de la chrétienté à l'époque.
Oui. Si je ne m'abuse d'ailleurs, Dracula voulait dire fils de dragon, hein, je crois.
Oui, enfin on pense, il y a des hypothèses diverses et variées, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Dracu en roumain, ça veut dire le diable. Donc là, vous avez l'assimilation chrétienne du dragon au diable qui vient de la Bible. Hein. Le grand dragon rouge de l'Apocalypse, ça symbolise le diable. Et alors que chez les Chinois, le dragon... est un être bénéfique. J'ai participé en tant que membre du comité scientifique à l'exposition qui a fermé ses portes il y a peu de temps au musée au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et là, on a présenté diverses pièces. On les avait présentées en 2005 en Moselle. Notamment, on avait présenté là la robe de l'impératrice de Chine. Et l'empereur et l'impératrice en Chine étaient considérés comme les fils du dragon. C'est-à-dire, le dragon avait un rôle ancestral, bénéfique. Vous savez, en Chine, le dragon, il est très ancien. Il remonte au néolithique. Moi, j'ai pas traité cet aspect. J'ai traité l'aspect européen et, au fond, maléfique. Le dragon, pour les chrétiens, est le symbole du mal et du démon. Donc, vous voyez, ça se rapporte aussi à Vlad Tepes, parce qu'effectivement, portant donc l'insigne du dragon renversé, ça symbolise en fait le combat de Saint Georges contre le dragon, et là en l'occurrence le dragon est un ennemi politique.
Et alors Michel Meurger, avant d'aller se promener avec vous dans les Alpes, dans toutes ces Alpes, et découvrir les différentes histoires de dragons, leur évolution à travers le temps, comme vous l'avez noté dans votre livre, au niveau international, planétaire, le dragon est-il omniprésent, ou alors
problème...
juste spécifique à quelques civilisations?
Non, c'est spécifique à notre civilisation européenne, parce que en fait, et le terme et le type d'animal correspond à une évolution à l'intérieur d'une culture qui était la culture chrétienne, donc européenne de l'époque médiévale, et donc on peut pas dire, en fait c'est un abus de terme, quand on parle du dragon chinois, on devrait parler du lung, c'est-à-dire le terme qui est employé par les Chinois, et lors de l'exposition donc de Moselle et de Paris sur les dragons, à laquelle j'ai participé, Li Xiaong et Monsieur Komenthal étaient en fait les spécialistes du dragon chinois. Chacun se partageait au fond un espace draconien. Il faut pas tout mélanger, parce que finalement le risque, c'est de faire des confusions, alors que le dragon chinois n'a pas grand-chose à voir avec notre dragon européen qui est très marqué par le christianisme, en fait.
Mmh. Alors, commençons à nous promener dans notre Europe occidentale. Les premiers dragons tels que on les connaît maintenant ont commencé à apparaître où et quand ?
Eh bien, dès le haut Moyen-Âge, on commence à parler des dragons en rapport avec ces occurrences de dragons maléfiques dans la Bible. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au XIIIe siècle, on a une vie de Sainte Marthe qui décrit la Tarasque, donc qui est une créature donc décrite dans la vie comme une sorte d'être amphibie qui se réfugie dans le Rhône quand on la menace, qui se cache dans un bois. Donc vous voyez, on reprend ces descriptions d'environnement de l'Antiquité, on reprend les définitions d'Ovid, la forêt, la caverne,
la source évidemment.
Et on les reprendra durant des siècles. Et ce qui est important, c'est qu'il faut voir que pour les naturalistes du Moyen-Âge, le dragon était un être à la fois réel et maléfique. Il symbolisait le diable, certes, mais il existait dans un ailleurs. Il existait dans un ailleurs à la fois exotique et européen.
Mais il le considérait comme étant réel.
C'est-à-dire que, par exemple, quand vous lisez la vie de Sainte Marthe, vous vous rendez compte que c'est un dragon qui est repoussé au passé. C'est une créature qui a vraiment existé pour les auteurs du Moyen-Âge. Donc c'est une façon de l'introduire, finalement, dans l'espace européen. Il y en a une deuxième. D'après les auteurs de romans de chevalerie, les grands chevaliers ont toujours combattu des dragons en imitant leur modèle Saint-Georges.
Oui.
Donc vous voyez, c'est deux façons de l'introduire un petit peu en contrebande dans l'espace européen. Et moi, quelque chose qui m'a particulièrement impressionné, c'est qu'à partir du XIIIe siècle, les chroniqueurs font apparaître le dragon comme une créature réelle, là directement dans l'environnement occidental. Alors j'ai relevé cinq occurrences dans les chroniques du XIVe au XVe siècle qui décrivent des dragons emportés par des crues, emportés par des grandes inondations.
Oui.
C'est très curieux, parce que ça commence en 1304, on parle d'une crue qui soulève les eaux du lac du Ballon d'Alsace, et un dragon s'enfuit, descend sur la crue, s'attaque aux troupeaux, aux hommes, il faut le tuer. Donc vous voyez, c'est décrit comme quelque chose de réel. Le chroniqueur, par ailleurs, décrira des batailles, décrira des couronnements de rois, mais il y a aussi ces relations très intrigantes. Par exemple, en 1335, on parle de deux mini-dragons qui auraient été capturés dans l'Arnaud, en Toscane, là encore, lors d'une grande inondation. Et ça jouera pas, ça va être enfoui dans les chroniques, sauf dans un endroit très particulier, la Suisse alémanique, en 1499, et c'est la couverture de mon livre, on raconte que un dragon serait sorti du lac des Quatre Cantons, donc vous voyez, dans la Suisse centrale, dans la ville de Lucerne, à la faveur d'une inondation, aurait remonté la rivière Reuss en crue, aurait été aperçu par des badauds sur un pont. Donc vous voyez, il y a une sorte d'invasion du dragon dans l'espace urbain, là. C'est-à-dire que cet animal prend de plus en plus un caractère concret à mesure que le Moyen-Âge se finit. Et finalement, contrairement à l'idée qu'on se fait, parce qu'on imagine, ah, le dragon, c'est le Moyen-Âge, le dragon, c'est le Nord, c'est pas vrai du tout. Le dragon, c'est en fait l'Europe centrale, le dragon, c'est la fin du Moyen-Âge, et finalement, les chroniqueurs suisses vont particulièrement soigner notre ami le dragon, parce que finalement, ils en avaient besoin. Alors pourquoi en avaient-ils besoin ? Parce que au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, la Confédération helvétique est devenue un État important. Alors, elle a combattu victorieusement contre Charles le Téméraire, elle l'a vaincu. Le trésor récolté à la suite des deux défaites de Charles le Téméraire a failli provoquer une guerre civile tellement il était important. Ensuite, après, il y a eu la victoire contre les Autrichiens, il y a eu les ambitions suisses en Italie. Donc les chroniqueurs, leur rôle, ce sont des notables de la cité, leur rôle c'est de procurer à la Confédération des origines dignes d'elle. Alors finalement, d'un côté, vous avez la tradition de Guillaume Tell qui s'installe à ce moment-là, c'est-à-dire que les chroniqueurs disent « nos ancêtres ont combattu pour la liberté contre les baillis autrichiens ». et Guillaume Tell a été le champion de nos libertés. Et d'autre part, on va sortir du néant un certain Strutt de Winkelried, qui serait un chevalier qui, aux alentours du XIIIe siècle, aurait combattu contre un dragon dans un des cantons suisses, l'Unterwald, l'aurait vaincu, serait mort, empoisonné par le sang du dragon, mais aurait permis donc aux Suisses de s'installer dans les montagnes et donc de défricher, d'installer de beaux alpages. Donc finalement, vous voyez le rôle du tueur de dragons, du draconicide. Là, ce n'est plus le dragon adversaire de Dieu, c'est plutôt le dragon adversaire des hommes, adversaire d'une communauté montagnarde, et finalement est attribué au chevalier le rôle finalement d'un héros civilisateur.
Celui qui défriche vraiment pour que les autres puissent s'installer.
Celui qui crée la voie finalement à la communauté.
Ouais.
Et alors, j'ai fait remarquer dans mon livre que, effectivement, ce type de combattant contre le dragon correspond à la découverte progressive de l'espace montagnard européen. C'est-à-dire que petit à petit, on découvre la haute montagne. Vous savez qu'à l'époque médiévale, la haute montagne était l'univers des démons, l'univers inaccessible. Et donc, finalement, on s'intéresse de plus en plus au dragon parce que des rapports de montagnards concernant le dragon suisse, notamment, commencent à affluer. Et il y a un intérêt très grand. Alors, c'est pas un intérêt de n'importe qui, c'est un intérêt de certains des plus grands chroniqueurs de la Confédération. Je me suis beaucoup attaché à étudier un certain Johannes Stumpf, qui est un pasteur, ami du réformateur de Zurich, le fameux Zwingli. Et alors, dans son énorme chronique qui est parue en 1548, lui, il essaie de faire une classification de ce dragon suisse. Il y a deux types de dragons des Alpes.
Alors, justement, Michel Meurger, une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour, avec vous, voir ces deux catégories des dragons des Alpes dans les Alpes suisses, évidemment. Les aventuriers de l'étrange continuent avec ces délicieuses et frissonnantes histoires de dragons. À tout de suite.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
Et nous parlons de dragons avec mon invité ce soir, Michel Meurger, qui est l'auteur d'un livre tout à fait intéressant que je vous recommande, paru aux éditions Terre des Brumes, qui s'intitule « Histoire naturelle des dragons ». Michel Meurger, nous en étions restés à la description de deux types de dragons dans ces Alpes suisses.
Oui.
Alors, quels sont ces deux types de dragons ?
Alors, pour Johannes Stumpf, vous avez d'abord le Drac, c'est un mot qui vient de Drache en allemand et qui désigne donc le dragon, oui, proprement dit, qui est décrit comme une créature des sommets qui choisit les cavernes exposées au midi parce que, dit Stumpf, on sait très bien que chez nous il fait pas très chaud l'hiver, donc il faut que ce pauvre dragon puisse effectivement se réchauffer, donc il choisit des cavernes bien exposées.
Oui.
Et le second type, c'est le Lindwurm, qui lui est tapis dans les ravins des torrents. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces ravins, c'est particulièrement impressionnant. Je me suis risqué dans plusieurs de ces gorges. Ce sont des gorges très encaissées, où on entend le bruit du torrent. C'est sombre, c'est humide, c'est sinistre. Et c'est là que situé donc Stumpf, ce deuxième type de dragon. Alors ce qui est très intéressant, c'est parce que son illustrateur, son graveur, a représenté ces deux types. Le premier, c'est une sorte de dragon ailé à aile de chauve-souris, qui est le type fixé donc par la peinture médiévale. Et le second, le Lindwurm, c'est une sorte de crocodile correspondant à ces crocodiles empaillés conservés dans les églises. Donc il y a deux types très très particuliers. Ce qui est absolument fascinant, que vous avez trois vignettes sur la page. Vous avez donc respectivement le Drac, le Lindwurm, et ensuite vous avez
une ours.
Ses oursons, oui, parce que dans le texte, immédiatement après les dragons, Stumpf parle des ours. Donc finalement, pour lui, le dragon, ça fait partie de la faune dangereuse des Alpes, au même type que les ours, au même type que les loups.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, il a un désir de l'intégrer dans les sciences naturelles. Et alors un des pionniers des sciences naturelles, le Zurichois Conrad Gesner, reproduira ce texte de Stumpf dans son livre des serpents qui est paru posthumement en 1587. Il lui donne donc une diffusion européenne. Donc vous voyez, ce dragon suisse, il sort finalement du régional pour aboutir à la grande culture européenne, la culture des grands érudits de la Renaissance. Pour les érudits qui lisent le livre de Gessner, ils ne doutent pas qu'il existe un certain type de dragon dans les Alpes européennes, principalement dans la région de Suisse alémanique.
Donc c'était vraiment une réalité pour autant.
Pour moi, c'était une réalité et ça va être renforcé. À la fin du XVIe siècle, vous avez le secrétaire municipal de Lucerne, qui est un personnage absolument fascinant, qui s'appelle Renoir Cisa, qui a été un des piliers de la contre-réforme à Lucerne, et en même temps qui a rassemblé des matériaux gigantesques sur la culture cantonale, et notamment là-dedans, il dit il y a deux sortes de dragons, il y a les aquatiques et il y a les volants. Alors les aquatiques, le modèle, c'est le monstre du lac des Quatre Cantons, ce monstre qui s'est échappé donc du lac à la faveur d'une crue. Et les volants, il dit finalement les volants, moi j'en ai vu un, il venait tout en feu entre deux cimes venant du fameux Mont Pilate, qui est un massif qui s'élève au-dessus de Lucerne, avec entouré de légendes. Et donc il dit finalement, autrefois, il y en avait beaucoup dans la forêt qui s'étend sur un des flancs du mont Pilate. Si vous allez aujourd'hui, vous verrez qu'il y a encore, c'est encore une région très boisée. Mais il dit maintenant, il y en a moins parce qu'on a défriché. Et d'autre part, on a construit des alpages, donc le dragon a reculé. Mais il y en a encore. Il y a quelquefois des rencontres, mais ces rencontres se sont raréfiées. Une fois de plus, le dragon, il est pris comme une créature réelle qui acquiert une sorte de vérisme à partir du moment où on dit c'est un animal, mais c'est un animal très rare. Finalement, ça lui donne un caractère concret. Et le petit-fils de Cisa, Léopold, qui écrira un livre très important sur le lac des Quatre Cantons et la région, il va renforcer ça. Il dit « Je ne comprends pas que des gens puissent douter de l'existence des dragons ». Donc vous voyez, là on renforce. Et alors à partir de ce moment-là, vous avez effectivement ce texte qui s'appelle « Description du fameux lac de Lucerne » qui est paru en 1661. Il sera repris par un grand personnage de la culture baroque, à savoir le fameux jésuite Athanasius Kircher, qui dans le premier traité qu'on a consacré au monde souterrain, qui s'appelle le Mundus Subterraneus, lui il dit « Il existe un type particulier de dragon des Alpes suisses, et il l'appelle en latin le Draco Helveticus ». Le dragon helvétique, donc, il est bipède, il a des ailes de chauve-souris. Donc, vous voyez, finalement, par Kircher, ce dragon suisse acquiert un quasi-statut de tangibilité, en tout cas. Il est introduit dans le champ des sciences naturelles. Alors, chez Kircher, c'est tout de même un petit peu bizarre, parce qu'il explique, oui, mais enfin, c'est pas une créature qui appartient normalement à la zoologie. C'est plutôt une créature bizarre qui naît par génération spontanée. À l'époque, on croyait à la génération spontanée, puis lui luttait.
Carrément,
lui luttait contre des scientifiques qui estimaient que ça n'existait pas, notamment le fameux Francesco Redi à Florence, qui lui disait, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, des grenouilles ne naissent pas après la pluie, etc. Alors, il y avait une très grande controverse entre Kircher et Redi, et Kircher se sert du dragon suisse et des dragons en général pour dire, mais voyez, c'est un être qui naît par génération spontanée, alors comment? Finalement, vous avez des vautours, vous avez des aigles dans les hautes montagnes qui transportent des tas de proies dans leur nid. Alors, vous avez effectivement des lapins, vous avez des oiseaux, il dit même, il y a quelquefois même des enfants, et tout ça, les restes du repas des vautours, ça crée une espèce de méli-mélo, une espèce de boue. Et alors, à partir de cette boue, finalement, naît un être qui emprunte
hybride, quoi,
tous les éléments de ses dépouilles, de ses semences. Alors par exemple, il a des oreilles de lapin, il a un corps de serpent, il a des ailes de chauve-souris, et finalement c'est un espèce d'être anomalique.
C'est très étonnant ça comme théorie quand même.
C'est extrêmement étonnant, puis alors c'est illustré chez Kircher par de magnifiques gravures, dans lesquelles la Suisse a une très grande importance. Donc là encore, cette idée d'un dragon tapis dans les solitudes des montagnes suisses, c'est très très important dans le Mundus Subterraneus. Et alors, là encore, nouvelle consécration, en 1680 apparaît le premier ouvrage consacré à l'histoire naturelle de la Suisse. Là encore, c'est un Zurichois qui s'appelle Johann Jakob Wagner, qui consacre 9 pages de ce traité très sérieux. Alors il dit, de toute façon, là encore, il n'y a aucun doute, le dragon vit en Suisse, il s'appuie sur les chroniqueurs suisses, et il s'appuie aussi sur ce qu'il appelle la quotidiana experienza, c'est-à-dire l'expérience quotidienne des montagneurs. Il dit
des témoignages, oui, des témoignages.
Il y a des témoignages.
Oui, oui. Vous nous raconterez d'ailleurs le témoignage de ce tonnelier qui est tombé au milieu de dragons. On en parlera tout à l'heure. Alors, ce livre où il y a 9 pages qui concernent les dragons.
Et il y a des témoignages extrêmement importants, extrêmement intrigants sur des montagnards qui, au détour d'un sentier, tombent sur des créatures absolument incroyables, avec des têtes qui sont des têtes de chat, avec un corps boursouflé, avec à la fois des poils et des écailles. Et une grande terreur s'exprime à travers ces expériences vécues. Et donc, ça donne à l'ouvrage sérieux de Wagner, encore un caractère vériste, parce qu'il ne s'agit pas de vieilles chroniques, là. Il s'agit essentiellement de témoignages contemporains. Et ce qui est très important là-dedans, c'est cette impression, finalement, de se trouver devant des textes qui sont des textes cueillis de la bouche même des montagnards. Par contre, on s'éloigne du modèle tangible, du modèle finalement qui avait été imposé par la peinture du dragon ailé. Ouais. Dans les descriptions de Wagner, le dragon ailé est très très réduit par rapport à cette espèce d'herpétologie de cauchemar, c'est-à-dire on a des lézards, on a des serpents, mais on a très peu de créatures volantes.
Mais dites-moi, Michel Meurger, quand même, à cette époque-là, certes, il n'y avait pas la même culture que l'on a actuellement, je parle en général, évidemment, pour le Kidam, mais comment est-ce que des gens pouvaient redescendre de la montagne en disant, parce que je suppose qu'ils avaient vu quelque chose, évidemment, qu'ils avaient aperçu ce type d'animal, c'est quoi, qu'est-ce qui se passait dans leur esprit à ce moment-là?
C'est
la peur qui faisait ça,
voilà,
c'est quoi?
Ce qu'il faut remarquer, c'est que ces témoignages sont souvent des témoignages anciens. Oui. C'est-à-dire qu'on ne rapporte pas qu'on a vu avant-hier un dragon.
Oui.
On rapporte qu'on l'a vu plusieurs années. Donc ce qu'on peut supposer, c'est que des modèles de représentation de dragons circulent dans la culture populaire de l'époque et que les gens tout à fait sincères, pour rendre compte de paniques mal expliquées, utilisent ce modèle donc qui leur est fourni par leur culture pour rendre compte de ça. D'autre part, il ne faut pas oublier une chose, à toute époque, on a vu des choses extraordinaires. Aujourd'hui, ce sont les soucoupes volantes. À cette époque, on disait qu'on avait vu des dragons de feu dans le ciel. C'est-à-dire que finalement, vous avez des observations anomaliques ou prétendues telles à toutes les époques, et finalement, elles correspondent à un certain niveau de culture, à des représentations circulant dans la société. Donc finalement, il est normal pour un Suisse du XVIIe siècle d'utiliser ce modèle, comme il est normal pour un Américain de notre époque de parler de super engins volants avec tous ces modèles liés à la science-fiction.
Oui. Ce serait donc ça qui serait en partie également à l'origine de cette magnifique légende des dragons.
Et finalement, oui, et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire. Ces gens qui en parlent, ce sont des gens cultivés. Ce sont des gens qui sont à la pointe de la science et de la recherche de leur temps. Et vous avez un élève de Wagner qui s'appelle Johann Jakob Scheusser, qui en 1723 fait paraître son voyage à travers la Suisse. Il a été pendant des années, il a exploré donc la haute montagne, et lui, c'est un peu un personnage qui précède Rousseau avec cette idée du bon sauvage, c'est-à-dire que là, c'est le bon sauvage des alpages. Donc le montagnard ne ment pas, c'est quelqu'un de sincère. Scheusser invite le savant de cabinet, ce qu'il appelle le Stubengelehrter, d'aller apprendre ce savoir empirique sur les lèvres des montagnards, des herboristes populaires. Il dit « vous apprendrez tous les secrets de nature ». Et parmi ces secrets de nature, il y a notamment le dragon. Alors lui, il ajoute quelque chose à l'ouvrage donc de son maître Wagner. Il ajoute 11 magnifiques gravures pour représenter les dragons de ses rencontres avec les montagnards. Les dragons sont classés par canton. Alors ce qu'on voit sur les gravures, c'est qu'il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre, c'est-à-dire que ce sont tous des dragons très différents. Et là encore, le dragon volant est en sous-représentation, il n'y en a qu'un. Et lui, Scheusser, il s'interroge vraiment sur ces créatures. Il dit finalement, ça pourrait être une sorte de lézard géant qui vivrait dans les cavernes, etc. Alors ça, c'est intéressant parce que au 19e et au 20e siècle, il y aura encore des rapports qui parviendront des Alpes européennes, notamment des Alpes autrichiennes, des Alpes suisses, à propos d'une sorte de lézard géant qu'on appelle le Tatzelwurm, donc oui, qui est basé finalement sur ce dragon qui est un peu en retrait. Là, on parle de moins en moins à partir que le temps passe de dragons ailés aux ailes de chauve-souris, on parle de plus en plus de créatures au fond qui pourraient être plausibles, à savoir de lézards géants, de serpents surdimensionnés. Oui. Donc vous voyez, le dragon se rétrécit comme une sorte de peau de chagrin zoologique, tout en gardant cette espèce de cohérence interne, ce côté très 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 vériste finalement, correspondant à des descriptions absolument sensationnelles et passionnantes.
Michel Meurger, une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants pour que vous nous racontiez un ou deux témoignages qui ont été recueillis. Je pense à l'un notamment qui a vécu un tonnelier, un bourgeois de Lucerne qui est allé dans la montagne pour se fabriquer des cercles de tonneaux et ce qu'il a vécu. À tout de suite.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Avec des histoires de dragons et Michel Meurger qui est mon invité ce soir est l'auteur d'un livre paru aux éditions Terre de Brume qui s'intitule « Histoire naturelle des dragons » où l'on découvre toute la fabrication mentale des dragons jusqu'à nos jours. On comprend mieux pourquoi des films comme « Eragon » ont autant de succès actuellement. Avant de parler de ce témoignage que je vous demanderai de nous raconter, Michel Meurger, finalement, le dragon cristallise toutes les peurs, toutes les frayeurs des différentes époques finalement.
Oui, et en même temps, il cristallise finalement cette angoisse, cette inquiétude et cette fascination qu'exerce la haute montagne depuis des siècles sur l'esprit des Européens. Le monde perdu, la terra incognita des neiges, là cet animal il vit comme aujourd'hui on parle, d'après le monde perdu de Conan Doyle, de dragons qui seraient en fait des super dragons de la paléontologie, à savoir des dinosaures réfugiés sur quelques plateaux d'Amérique du Sud. Là, à l'époque, au 16e, 17e siècle, c'était les montagnes suisses.
Et alors, ce qui est étonnant, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais au fur et à mesure que la science a progressé avec la découverte des dinosaures, des différentes périodes qui ont fabriqué notre humanité, ça a nourri encore cet imaginaire concernant le dragon, j'imagine.
Oui, parce que les êtres fantastiques, ce sont de grands migrateurs. À partir du moment où la science avance, ils se replient de plus en plus dans des ailleurs, des isolats en général montagneux, forestiers. Ils se cachent, mais en fait, ils sont toujours là. On a l'impression qu'il y a une espèce de latence de ces créatures, de poids sur notre société, quelquefois d'invasion, comme dans le cas du dragon du pont de la Reuss qui n'hésite pas à pénétrer dans la ville.
Dans les rues des villes.
Donc il y a quelque chose d'agressif, il y a quelque chose finalement, moi je dirais aussi de symbolique, comme dans le cas des dragons, parce que pourquoi ce succès aujourd'hui des dragons à une époque d'inquiétude, à une époque où finalement on s'interroge sur nos sociétés, sur leur fragilité. Le dragon, c'est une créature finalement de l'altérité. Il vient toujours de l'ailleurs, ses grandes ailes battent dans nos angoisses. Et là, en l'occurrence, c'est un être, soit pour Cisa, pour tous ses chroniqueurs, pour tous ses érudits, il y avait des pièces à conviction, parce que le nombre des sceptiques au XVIIe siècle s'était accru. Donc finalement, on disait, vous n'y croyez pas, faites comme saint Thomas, venez voir. Alors Lucerne, la grande capitale, effectivement, des dragons, avec le mont Pilate au-dessus, conserve encore aujourd'hui une pierre de dragon, la draconite, que je l'ai montrée aux gens de l'équipe d'Arte. Elle a été photographiée. C'est un espèce de petit objet, de petite pierre intrigante. Et alors,
quelle taille, à quoi ça ressemble, décrivez-la nous.
Ça ressemble à une espèce de petite boule de ping-pong. Elle est colorée. Elle a l'air d'être assez lourde, je l'ai tenue dans ma main, d'après la légende rapportée par Cisa, un moissonneur, donc au XVe siècle, aurait vu tomber dans son champ, elle serait tombée du corps d'un dragon de feu montant au mont Pilate, il l'aurait conservée dans sa famille parce qu'elle avait des grands pouvoirs thérapeutiques, racontait-on, notamment elle guérissait de la peste. Donc c'était une amulette très importante, donc voilà. Si vous ne croyez pas au dragon, vous pouvez vous rendre encore aujourd'hui au musée de géologie de Lucerne pour la voir, la draconite, la pierre de dragon. Et d'autre part, il y a l'histoire, effectivement, de ce malheureux tonnelier. Alors là encore, Cisa raconte en disant, mais si vous n'y croyez pas, vous pouvez voir une chasuble qui se trouve dans une église de Lucerne où est représentée l'aventure, soi-disant, de ce tonnelier. Alors ce tonnelier monte au mont Pilate pour se fabriquer, effectivement, des douves de tonneaux. Et brusquement, chemin faisant, il tombe dans un trou. Il regarde où il se trouve, il était tombé dans un abîme, dans un trou, avec deux hôtes particulièrement inquiétants, deux lignevaumes, deux grands dragons. Et alors, ce type passe l'hiver dans cette grotte, les dragons ne lui font aucun mal, et comment se nourrit-il? Ben, raconte Sisa, il se nourrit en léchant.
Oui.
Sur le modèle des dragons, l'espèce de liquide qui soigne des
parois. Salé, comme ça, qui soigne des parois, voilà, c'est ça, oui.
Et alors donc, ben, il réussit à pas trop mal s'en tirer, il se trouve dans une semi-hibernation, et au début du printemps, voilà que nos deux dragons prennent leur envol. Et le tonnelier, qui n'est pas idiot, saisit la queue d'un des dragons et s'envole avec lui.
Dont il pense d'ailleurs que le dragon avait fait exprès hein, de la
oui,
laisser
oui,
pendre.
Oui, on pense
hein.
que c'était un brave dragon, il l'avait emmené.
Ouais.
Donc, dans l'ouvrage de Kircher, le Mundus Subterraneus, il y a une magnifique gravure qui représente le tonnelier accroché à la queue du dragon et survolant les Alpes. Vous imaginez, c'est quelque chose d'assez fabuleux.
Ah, oui, oui, oui.
Et alors, ceux qui n'y croient pas, dit Sisa, ils n'ont qu'à aller voir une chasuble qui était conservée dans une église, donc de Lucerne à l'époque, qui était censée représenter le tonnelier entre les deux dragons. En fait, on s'est rendu compte au XVIIIe siècle qu'il s'agissait en fait d'une chasuble d'origine asiatique, c'est-à-dire que les dragons étaient des bons dragons chinois, et cette chasuble était présentée au XVIIe siècle comme une preuve de l'existence des dragons du mont Pilate.
D'accord.
Alors, vous avez eu un personnage qui a été le personnage qui a tout fait exploser la croyance au dragon du Pilate. C'est un ami de Scheusser, on est toujours trahi par ses amis, qui s'appelait Kappeler, qui a consacré toute sa vie à explorer le mont Pilate, et qui, dans son ouvrage qui est paru à la fin du XVIIIe siècle, il a entièrement démonté cette croyance en disant, bon, d'une part, j'ai examiné cette pierre de dragon, j'ai constaté que les espèces de taches dessus, elles avaient été faites au pinceau. Donc il pense que c'est un faux. Et en plus, c'est un médecin, Kappeler, il ne lui attribue absolument aucun pouvoir thérapeutique. Deuxièmement, il dit finalement les dragons aquatiques. Bah, prenons par exemple ce dragon du lac des Quatre Cantons.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est une grande couleuvre, les gens ont un peu exagéré sa taille, etc. etc. Et d'autre part, les volants, bah, c'est tout simplement ces créatures volantes de feu du mont Pilate, c'est tout simplement des météores. Hein. C'est un phénomène météorologique assez rare, mais tout de même qui entre tout à fait dans les sciences naturelles. Donc finalement, à la fin du XVIIIe siècle, le dragon est chassé de son Olympe, le mont Pilate,
oui.
Et les herboristes, les scientifiques peuvent se rendre au mont Pilate pour exploiter les richesses naturelles. La boucle est bouclée, finalement. Le dragon est éjecté au moment où l'inné lui refuse toute place dans les nomenclatures naturelles. Alors, le dragon, il va se maintenir où, finalement, en Europe? Ben, il se maintiendra dans les contes, les légendes, le folklore,
mm-hmm.
Et il durera très très longtemps. C'est-à-dire qu'au minimum, moi je dirais que les gens continueront à croire dans des endroits d'Europe.
Oui, il y a des dragons, oui.
Il y a des dragons, par exemple, chez les Slaves du Sud, y compris en Autriche et en Suisse, mais sous des formes souvent atténuées, comme celle de ce lézard géant, qui serait censé exister donc dans quelques isolats des montagnes suisses, et même dans le nord de l'Italie, puisqu'encore aujourd'hui, on parle du Scurs, qui est une sorte de Tazzolwurm, donc de lézard géant, mais italien. Donc il y a encore des témoignages qui se sont amenuisés, mais qui n'ont pas totalement disparu. Donc finalement, l'histoire du dragon montagnard, du dragon des Alpes européennes, c'est une histoire qui s'étale au minimum sur 400-500 ans, ce qui est quand même pas mal de longévité pour la belle créature des dragons.
Mmh. Une petite parenthèse, vous nous avez parlé à maintes reprises de ce lézard géant qui vivrait
oui.
dans les quelques recoins inconnus des Alpes suisses ou italiennes.
Voilà.
Là, on frôle un petit peu la cryptozoologie.
Oui, tout à fait.
Quasiment. Quel aspect a-t-il? À quoi ressemble-t-il? Qu'est-ce qu'on en sait?
Alors, on le décrit comme une sorte de lézard. Là encore, les tailles sont très variées. Le bout de sa queue serait brutalement coupé. C'est une créature qui serait extrêmement venimeuse et agressive. C'est-à-dire que vous savez qu'en général, les lézards sont pas du tout dangereux pour l'homme.
Non.
Je pense par exemple au magnifique lézard vert qui s'est extrêmement raréfié sous nos latitudes, mais qui est une créature absolument magnifique. Finalement, ce Tazzolwurm, lui, serait très dangereux. Dès qu'il verrait un homme, il lui sauterait dessus. Il aurait ensuite un venin.
Ce qui pour un animal est complètement contraire à la nature.
Tout
d'ailleurs.
À fait.
Il a plutôt tendance à fuir.
Il aurait un venin qui serait terrible, qui tuerait l'homme pratiquement à chaque fois qu'il le mord. C'est une créature aussi qui finalement, quand on l'examine de près, c'est-à-dire que vu d'une certaine distance, on se dit après tout pourquoi pas un lézard géant, ça n'a rien d'extraordinaire en soi. Oui, mais quand on examine les témoignages, cette espèce de morphologie précise se dissout, les tailles sont jamais les mêmes. Finalement, en examinant de près ces descriptions de créatures extraordinaires, on se rend compte qu'au fond, le Tatzelwurm, comme beaucoup d'autres créatures de ce type, est constitué par l'apport d'autres créatures fantastiques. C'est-à-dire que c'est une espèce de cadavre exquis surréaliste. Vous savez, les surréalistes avaient l'habitude de prendre la tête d'un animal, les ailes d'un autre, et de faire un nouvel animal. Bah, le Tatzelwurm, c'est un peu comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une morphologie stable. Elle se dissout quand on examine ça de près. Ceci dit, il y a toujours... il y avait quelque temps encore, il y a une vingtaine d'années, il y a encore des témoignages. Il y a même eu des enquêtes qui ont été faites par des grandes revues allemandes, suisses et autrichiennes aux alentours des années 30, juste avant qu'on parle du monstre du Loch Ness, ouais, qui pour moi est le dernier dragon européen, dont l'affaire, l'aventure, je l'ai longuement relatée dans plusieurs travaux. Elle commence en 1933 et une des personnes qui était censée l'avoir vu à terre disait ça ressemblait à un dragon ou à une créature préhistorique. Donc là, vous voyez au fond, le monstre préhistorique, le dinosaure des temps perdus, va remplacer le dragon. Et finalement, aujourd'hui, on peut dire que de la même façon que les soucoupes volantes ont remplacé dans les cieux les dragons de feu, bah, les dinosaures soi-disant rescapés, survivants, quelque ailleurs, exotiques, ont remplacé au fond le dragon.
Mmh. Et alors, vous citez un petit peu plus loin, après l'histoire de ce bourgeois de Lucerne, une autre aventure qu'a vécu un chevalier qui est devenu le 27e grand maître de l'ordre de Malte, donc oui, pas n'importe oui. Qui, Déodat de Gonzon, et là, qui lui a tué un dragon sur l'île de Rhodes.
Oui, alors cette histoire, on connaît Déodat de Gonzon, c'est effectivement un des grands maîtres de l'ordre des hospitaliers.
Oui.
Ça, c'est un personnage historique. Par contre, on n'a jamais pu retrouver trace de cette aventure avant, disons, mm-hmm. le XVIIe siècle. Ceci dit, cette histoire apparaît dans une chronique de l'ordre de Malte et effectivement, on dit ce chevalier a pu être nommé grand maître de l'ordre parce qu'il a exécuté un exploit. L'île était à l'époque dévastée par un dragon qui là encore se cachait dans une caverne d'où sortait une source.
Mmh. Et alors lui, on retrouve le même parallèle de ce chevalier suisse qui est allé tuer le dragon pour que ouvrir une voie, défricher une.
L'avantage de Déodat, c'est que c'était quelqu'un de très organisé, c'est-à-dire qu'avant de se mesurer au dragon, il a fait construire un modèle de dragon et il a excité ses chiens contre ce modèle. Donc finalement, il a pas joué franc jeu, parce qu'alors que Saint-Georges ou les autres tueurs de dragons se battaient épée en main contre le monstre, lui, il a quand même utilisé ses chiens, il a utilisé une lance, une épée.
Il s'est préparé sérieusement.
Il s'est préparé. Quoi. Oui, et oui. Là encore, on a dans l'ouvrage de Kircher une très très belle représentation de ce combat, à une époque où on ne connaissait que la gravure. Aujourd'hui, ça serait le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a un aspect visuel, iconographique dans la légende du dragon. C'est-à-dire que finalement, cette créature, on veut la rendre concrète par l'image. Mmh. Et finalement, plus on la rend concrète par l'image, plus cette présence devinée prend corps, a une importance dans la littérature, dans la culture. Là, on ne parle pas de légende populaire. On parle de culture savante. On parle finalement de tout un courant de sciences naturelles qui, depuis l'Antiquité, quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, postulait l'existence du dragon comme un objet zoologique, une créature faisant partie de la vie, faisant partie non pas simplement du mythe, mais faisant partie finalement de la dimension du réel.
Mmh, mmh. Alors, racontez-nous cette histoire de Déodat de Gonzon, parce qu'il y a eu une pièce à conviction aussi, là.
Là encore, dans la famille de Déodat,
ça, c'est intéressant, oui.
On aurait conservé effectivement une pierre de dragon, mais surtout, le crâne du dragon aurait été suspendu, en gros, jusqu'au XVIIe siècle, à une des portes, effectivement, de la ville.
Mmh.
Et là, ce crâne a été décrit par un voyageur français. Il dit, c'est un crâne massif. Il le décrit de façon très, très précise, ce qui fait qu'on peut soupçonner qu'en fait, ce crâne de dragon était en fait un crâne d'hippopotame préhistorique, c'est-à-dire que dans ces îles de Méditerranée, on a souvent fait des découvertes d'ossements fossiles, et notamment d'hippopotames. Donc là, en l'occurrence, la découverte d'un crâne d'hippopotame a pu concrétiser la légende, de la même façon qu'au XVIIe siècle, dans des revues scientifiques très sérieuses, les gens qui croyaient à l'existence de dragons disaient « Regardez, moi, j'ai reçu de Transylvanie, un crâne de dragon, et le crâne est reproduit encore, je le reproduis dans mon livre, et cette description iconographique très précise a permis à un paléontologue du XXe siècle de dire, ben oui, finalement, c'est un crâne d'ours des cavernes. C'est-à-dire qu'on trouve encore aujourd'hui, dans de nombreuses cavernes européennes, notamment dans la région des Carpates, des crânes de ce grand ours aujourd'hui disparu, extrêmement impressionnant. On en a présenté un lors de l'exposition, il a des dents absolument remarquables.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, on a encore donc un aspect de concrétisation des dragons, parce que on dit aux sceptiques, vous n'y croyez pas, bah regardez, on a une pièce à conviction.
Voilà, là c'est du tangible, du concret.
Là c'est du tangible. Et alors, il y a encore une autre mutation de notre dragon, c'est au XIXe siècle avec la paléontologie. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que l'avancée des sciences le fasse dissoudre la légende, mais pas du tout. Parce qu'on découvre le pterodactyle.
Ah, alors donc, attendez, Michel Meurger, là on va faire une pause et on va y revenir, parce que ça, là aussi, c'est vachement intéressant, si je puis me permettre. Une pause et on se retrouve pour parler justement de cette nouvelle pièce à conviction qui va venir renforcer les, entre guillemets, tenants de l'existence du dragon. A tout de suite.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Avec un livre passionnant que je vous recommande, qui m'a aidé à construire cette émission, Histoire naturelle des dragons, qui est paru aux éditions Terre de Brume. Je suis en compagnie de Michel Meurger, qui est son auteur. Alors, Michel Meurger, on se disait tout à l'heure, juste avant cette pause, que bon, finalement, avec l'arrivée de la paléontologie, l'arrivée de la science moderne au 19e siècle, etc., eh ben, ça allait être, ça allait donner le coup de grâce, finalement.
Eh ben, pas du tout.
Non, aux dragons. Pas du tout.
Le dragon va rebondir.
Tant mieux. Alors,
le dragon va rebondir parce que qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre les ptérosaures. Ce sont des grands reptiles à ailes de chauve-souris, hein, bizarre, et à gueule de crocodile. Donc, vous avez beaucoup de vulgarisateurs qui disent, dans le fond, regardez, ça ressemble tout à fait au portrait du dragon médiéval. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu cet être qui vivait au secondaire, mais qui a disparu aujourd'hui ? Est-ce que certains n'auraient pas pu subsister dans des solitudes du monde, notamment dans les montagnes, et en étant combattus par de preux chevaliers, donner naissance à la légende du dragon?
Vous rendez compte des ptérodactyles au Moyen-Âge, quand même.
Voilà, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux types d'individus qui vont lancer cette hypothèse. Vous aurez d'une part des gens comme Pouchet, le fameux Pouchet adversaire de Pasteur dans la controverse de la génération spontanée, qui lui a des positions laïques, qui va dire, bah oui, finalement, vous savez, hein, les prêtres, ils ont enrobé de superstition un fait naturel, à savoir la persistance de ces créatures, de ces ptérosaures dans les montagnes, et d'autre part, des gens, des fondamentalistes chrétiens, comme par exemple le comte Eudes de Mirville, qui dans son énorme livre consacré au spiritisme, consacré à tout un tas de phénomènes qu'on appelle aujourd'hui des phénomènes paranormaux, dans le fond, Cuvier, en découvrant les animaux préhistoriques, il a légitimé l'existence des dragons, parce que le ptérodactyle, ça ressemble bougrement à un dragon, donc finalement, on a nié le dragon, hein, au XVIIIe siècle, qui était une époque sceptique, on s'est moqué des vieux textes religieux qui faisaient allusion au dragon. Ben regardez, la science venge la religion et la légende en exhumant le ptérodactyle.
Mais est-ce que, franchement, pour un spécialiste comme vous, est-ce qu'il est plausible d'envisager que quelques éléments, quelques ptérodactyles aient pu survivre jusque même au haut Moyen-Âge?
C'est très difficile à admettre, parce qu'aujourd'hui on pense que la grande extinction du secondaire, de la fin du secondaire, a été un phénomène massif et général.
Oui.
Et donc il est très difficile d'estimer qu'après des millions d'années, des créatures aient pu persister. Et surtout, l'argument massue, c'est que la représentation qui plaît tant aux vulgarisateurs du 19e, ce dragon serpent à gueule de crocodile et aile membraneuse, aile de chauve-souris, il s'est formé très tardivement, au 14e, 15e siècle, dans les portraits, dans les représentations. Donc finalement...
Ouais, donc c'est pas possible, quoi.
C'est pas possible, mais en même temps, c'est un bon effet, moi je dirais, de malentendu iconographique. Les désastres de l'esprit analogique. Vous avez quelque chose qui ressemble à quelque chose, ben finalement, à partir de ce moment-là, ça suppose que la chose en question existe.
Oui.
Mais par contre, ce qui est fascinant, c'est que là encore, la paléontologie, surtout au niveau de la vulgarisation, fournit une seconde vie au dragon. Et ça explique pourquoi, dans beaucoup de films, vous avez, par exemple, consacré à l'époque préhistorique, vous avez Raquel Welch qui se fait enlever par un ptérosaure. Parce que effectivement, à partir du moment où les vulgarisateurs avaient implanté l'idée que certains ptérodactyles et ptérosaures avaient pu survivre, bah, pourquoi ils n'auraient pas pu rencontrer nos ancêtres préhistoriques? Et là, vous avez dans beaucoup de romans préhistoriques et de films surtout, vous avez des grands reptiles volants comme les ptérosaures qui sont figurés, qui apparaissent à côté d'hommes préhistoriques.
Ouais, ouais. Alors, dites-nous, après ce long moment en Suisse, en France, les histoires de dragons et les dragons français, mon bon monsieur, est-ce que nous en avons eu?
Oui, tout à fait. Et il faut que vous vous rendiez à un endroit qui est absolument magnifique, même si vous n'allez pas voir le dragon du lieu, le lieu en vaut la peine. C'est le lac Pavin, en Auvergne, qui est un lac de cratère, près de Besse-en-Chandesse. Et là, on a un splendide livret, un texte du XVIIe siècle, qui raconte comment un soldat a combattu, au péril de sa vie, un dragon épouvantable qui vivait dans une grotte, là encore, en bordure du lac.
Alors, racontez-nous ça.
Alors, ce lac, c'est un lac qui est très profond, qui est un lac de cratère, un lac très sombre. Et d'après ce texte du XVIIe siècle, il y a des poissons monstrueux qui y vivent parce que personne n'ose le pêcher. Alors, vous avez, près du lac, dans la caverne, un dragon qui est décrit là encore comme une créature hybride, qui a des ailes de chauve-souris, qui a un souffle mortifère. Et alors, ce soldat qui s'appelait La Brière, oui. Revenait en se promenant tranquillement au bord du lac, et là, il est agressé par le dragon. Alors, un combat digne d'un film d'heroic fantasy, il réussit à vaincre le dragon, mais manque de chance, le dragon l'a mordu, et ce malheureux La Brière porte plusieurs bubons de peste. Il a été infecté par le monstre, et il meurt en recommandant son âme à la Bonne Vierge. Et là, ce qui m'a paru intéressant, c'est que l'époque où est paru ce livret correspond à l'époque, donc, Louis XIII, à une époque où, justement, dans le cadre de la contre-réforme, on redonne au culte marial une grande importance. Donc finalement, vous voyez, on fait d'une pierre deux coups. D'une part, on décrit un texte absolument pittoresque qui va passionner le lecteur. Et d'autre part, on lui glisse qu'en adorant la Vierge contre ces diables de Huguenots, et ben finalement, on arrivera à s'en sortir. Et alors, j'ai suivi ça à travers toute la Suisse parce que, comme par hasard, les saints combattant les dragons sont remis à l'honneur par les agents de la contre-réforme. Et n'oublions pas que Cisa, le fameux Cisa, était un apôtre de la contre-réforme à Lucerne. C'est lui notamment qui a introduit les jésuites. Donc vous avez un sous-texte politique et religieux derrière la belle légende dorée.
Et oui, c'était toujours récupéré de manière
récupéré,
politique.
C'est instrumentalisé. Par exemple, il y a un certain Saint Béat, qui n'a d'ailleurs jamais existé, mais qui, au XVIe, XVIIe siècle, était honoré. Près du lac de Thoun, on montrait la grotte. De laquelle il aurait chassé un dragon pour s'y installer. Vous imaginez le malotru, un dragon était installé là tranquillement. Vous avez le saint qu'il chasse d'ailleurs d'un coup de bâton. J'ai reproduit une gravure dans un livre magnifique qui s'appelle l'Helvetia Sancta, l'Helvétie Sainte, qui est une hagiographie des saints suisses. Et là, on le montre donc chassant le dragon. Alors quand il est mort, ce brave saint Béat, ses ossements ont été conservés et en même temps, on racontait donc la légende aux pèlerins qui se rendaient à cette grotte. Arrive la réforme, les réformés disent pas question, parce que ce sont des superstitions papistes, donc il n'est pas question d'aller honorer ce saint. Et alors, par deux fois, ils ont fait fermer la caverne, ils l'ont fait boucher, on a interdit aux pèlerins de s'y rendre, les pèlerins s'y rendaient toujours clandestinement. Donc il y a eu une lutte idéologique dans laquelle le dragon a joué un rôle, parce que le fameux Cisa, là encore, dit, mais de toute façon, les ossements, ils ont été dispersés par les réformés, mais on en a conservé une pieuse femme, on a conservé quelques-uns, et où est-ce que vous pouvez aller les honorer? À Lucerne, bien entendu.
Ah ben oui, évidemment.
Capitale de la contre-réforme et des dragons.
Évidemment.
Oui, rien ne se perd.
Ah non, tout se transforme, oui. Surtout en politique, effectivement. Voilà. Dites-moi, Michel Meurger, d'autres lieux en France où quelques dragons auraient sévi?
Ben, en France, c'est pas le pays des dragons. Il faut bien reconnaître que, et la raison, à mon avis, c'est une raison, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison de science naturelle, parce que on a eu en France un certain nombre d'érudits passionnés par les sciences naturelles. Je pense à Ambroise Paré, par exemple, mais ce sont pas des gens qui ont ciblé spécialement sur les dragons. Il a bien été question, par exemple, d'un dragon à cette tête qui aurait été offerte par les Vénitiens à François Ier, mais on n'a jamais plus entendu parler. Les dragons se perdent dans les collections, les cabinets de curiosités en France. Finalement, en France, c'est essentiellement au XVIIe siècle qu'on en parle, en relation, effectivement, avec la contre-réforme. Oui. Mais le pays des dragons, c'est essentiellement la Suisse alémanique et accessoirement aussi l'Autriche, en relation avec certaines cavernes. Vous voyez, par exemple, en Autriche, une grande caverne qui s'est située à Mixnitz. On en a retiré des tonnes et des tonnes d'ossements, donc de créatures préhistoriques, dont notamment des ours des cavernes. Et un jour qu'on fouillait donc cette caverne, on en a retiré un crâne d'ours, et le crâne était donc sortait, émergeait de terre, et un des ouvriers qui avait exhumé ce crâne a dit « mais c'est un crâne de dragon ». Et ceci au début du XXe siècle. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a certains lieux où, pour des raisons à la fois religieuses, d'idéologie politique, de certaines focalisations des sciences naturelles, on parle beaucoup de dragons, et aussi parce que on découvrait ce qui était considéré comme des pièces à conviction, à savoir des ossements de grands mammifères de l'époque préhistorique qui étaient pris pour des ossements de dragons, alors qu'il s'agissait d'ossements principalement d'ours des cavernes.
Oui. Est-ce qu'il y a eu des lieux consacrés entièrement aux dragons avec des pièces à conviction intéressantes? Je pense à un musée, à des collections que l'on peut encore découvrir.
Vous pouvez voir la pierre de dragon au musée de géologie de Lucerne.
Ça oui, la dragonite.
Il faut absolument, si vous allez à Lucerne, il faut absolument vous rendre, et vous y rendrez plus facilement que les gens du XVIIe siècle, parce que vous avez un superbe téléphérique qui vous conduira de la ville de Lucerne au sommet du mont Pilate, où vous pourrez voir une série de dessins faits par le grand artiste suisse Hans Cerny, représentant tous les épisodes des dragons du mont Pilate, notamment l'histoire du fameux tonnelier. Vous aurez donc tout un circuit draconien au sommet du mont Pilate aujourd'hui, et puis vous verrez le magnifique panorama du lac des Quatre Cantons, d'où était sorti le dragon en 1499. Donc vous pourrez faire un itinéraire touristique draconien autour du lac des Quatre Cantons et de la ville de Lucerne, la capitale des dragons.
Mmh. Et en ce qui concerne donc vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'évolution de cette légende des dragons au fil des âges?
Bon, je me suis intéressé d'abord aux sciences naturelles, parce que je travaille donc sur l'imaginaire scientifique, et au fil des lectures d'ouvrages de sciences naturelles de la Renaissance, je me suis rendu compte qu'il y avait une présence draconienne au niveau des textes et qu'il y avait une interrogation sur l'existence de ces créatures. Et ça m'a permis un bon levier, non pas pour soulever le monde, mais pour essayer de comprendre ces enjeux à la fois de culture savante et de culture populaire, et de faire comprendre au lecteur qu'au fond, quelque part, rien n'est donné en science, c'est-à-dire que la science se construit petit à petit, et qu'il a fallu pratiquement 400 ans pour expulser le dragon d'un monde où il était bien installé, pour des raisons à la fois de dogmes religieux et de dogmes scientifiques, parce qu'on s'appuyait sur les auteurs de l'Antiquité comme Pline, on s'appuyait sur l'autorité de la Bible pour dire attention, hein, de toute façon c'est un dogme, le dragon existe. Donc imaginez les malheureux naturalistes du XVIIe et du début du XVIIIe siècle qui étaient obligés de ménager la chèvre et le chou. Donc ce qui m'a fasciné, c'est d'étudier les stratégies par lesquelles ils arrivaient à ménager leur foi et leur empirisme. Et c'est en cela que le dragon m'a intéressé. J'aurais pu choisir un autre thème qui est tout aussi passionnant, qui est celui de la licorne, parce que la licorne a mis très longtemps à être expulsée des sciences naturelles, parce que là encore, il y avait des textes bibliques et des textes des pères de l'Église qui parlaient d'un animal avec une corne unique, et il y avait aussi les fameuses dents de narval qui étaient conservées à Paris, qui étaient conservées à Rome et un peu partout dans les cabinets de curiosité, qui étaient données comme des cornes de licorne. Donc là encore, il y avait une pseudo-pièce à conviction, et n'oublions pas que la licorne a disparu au XIXe siècle seulement, lorsque Stanley a rencontré Livingstone, vous savez, la fameuse phrase
« Dr. Livingstone, I presume ».
Et ben effectivement, la première chose que lui a dit Livingstone, c'est, vous savez, il y a un animal qui ressemble bougrement à la licorne, qui se situe de l'autre côté de la montagne. La licorne, comme le dragon, c'est toujours de l'autre côté de la montagne.
Évidemment. Michel Murger, juste une petite pause, et j'aimerais que l'on revienne un petit peu sur le parallèle entre les dragons et la licorne, parce que finalement, c'est le même combat, sauf que la licorne a quand même cristallise une autre imagerie, et peut-être d'autres espoirs, ce que ne fait pas le dragon. C'est peut-être d'ailleurs même le contre-dragon. À tout de suite.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Avec mon invité Michel Murger, auteur d'Histoire naturelle des dragons, un très beau livre paru aux éditions Terre de Brume, très érudit. Juste avant cette pause, Michel Murger, nous faisions le parallèle entre, c'est vous qui l'avez fait d'ailleurs, je trouve ça tout à fait pertinent et intéressant, entre le dragon et la licorne. Alors je vous disais, si le dragon cristallise, on l'a vu, toutes les angoisses que peut porter l'humanité et projeter sur cet animal légendaire, ça n'est pas du tout la même chose avec la licorne, bien que ils aient un petit peu par bien des côtés une vie parallèle.
Et en même temps, la licorne, c'est un symbole tout à fait positif, tout à fait gentil, si l'on peut dire, puisque c'est le symbole de la Vierge. La licorne représente la pureté, la licorne blanche, et seule une Vierge, disait-on au Moyen-Âge, peut l'apaiser lorsqu'on la chasse. C'est-à-dire que la Vierge en question, c'était la Vierge Marie, et finalement, la licorne est un animal qui symbolise le Christ, qui est un animal donc positif, alors que le dragon, c'est le diable, c'est le mal dans la symbolique chrétienne. Mmh. Et ce qui est intéressant dans la licorne aussi, c'est parce que elle a eu une très longue vie dans les sciences naturelles et on l'a cherchée un peu partout. Et finalement, elle s'est concentrée dans des lieux encore inaccessibles, comme dans le cas du dragon.
Pareil.
Par exemple, on parlait d'une licorne au Tibet. Alors avant de parler du Yéti, on parlait d'une licorne tibétaine.
Ah ça, j'ignorais, tiens.
Une licorne qui se cachait dans les solitudes du Tibet et le perruque, le fameux perruque, il y a même fait allusion. C'est un animal qui, pendant des siècles, a hanté l'imaginaire des voyageurs, des explorateurs du Tibet ou de la Mongolie. On n'est jamais précis sur ce genre de choses parce que cette topographie de rêve a de la peine à se situer sur la carte d'état-major. C'est en général très vague. On dit dans les monts du Tibet, etc. Mais on a situé beaucoup d'autres créatures dans le Tibet avant le Yéti. De toute façon, chaque époque a ses monstres. Au XVIIIe siècle, on parlait des géants patagons. Alors là, c'était avant le Yéti, c'était censé être des géants qui vivaient en Terre de Feu, en Patagonie,
oui.
Et là encore, des voyageurs disaient, mais on les a même mesurés, ils font tant de mètres de hauteur, et ont montré dans les foires des objets leur ayant appartenu, par exemple une hache de pierre, ou des objets divers et variés. C'est-à-dire que finalement, chaque époque avait son ailleurs, et avait les créatures extraordinaires correspondant à cet ailleurs.
C'est fabuleux, ça.
J'ai écrit un livre sur les monstres marins et les monstres lacustres, et je me suis intéressé aussi aux sirènes, aux hommes marins, et à l'époque de la conquête du Brésil, on parlait d'une sorte particulièrement dangereuse d'homme marin qu'on appelait les Icpupiara, et les colons portugais, les Espagnols, décrivaient en long, en large et en travers ces créatures, et aussi vous aviez des missionnaires qui disaient « mais on a même tenu leur crâne entre les mains ». D'après la description qu'on en donne, je pense qu'il s'agit effectivement d'un être tout à fait normal, qui est en fait le dauphin de l'Amazone, ce qu'on appelle le boto. Et donc, finalement, là encore, comme dans le cas du dragon, crâne d'ours et caverne, là, effectivement, vous avez l'Icpupiara, vous avez le dauphin. Vous avez toujours un rapport au concret, au réel, mais tout dépend de l'agencement.
Oui.
C'est-à-dire que si vous croyez à ce genre de choses-là, vous arriverez toujours à dire, mais finalement, c'est que vous n'êtes pas tombé au bon endroit, à la bonne époque. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu, effectivement, l'Icpupiara, vous n'avez pas vu le dragon. Le dragon, c'est un animal qui existait dans les solitudes européennes, il a disparu. C'est une façon, finalement, très commode de croire à l'incroyable, parce que finalement, vous supposez toujours qu'il y a une existence caché et qui s'est éteinte au moment où vous alliez faire l'exploration et essayer de légitimer ça. Ça me paraît un peu facile. Moi, je crois qu'au contraire, ce qu'on a à faire, c'est à des faux animaux, c'est-à-dire à des créatures qui ont hanté le passé occidental pendant des siècles pour des raisons mélangées de dogmes et de curiosité, et finalement qui se sont éteintes à partir du moment où la science a essayé de les mettre en évidence en disant, bon, ben, arrêtons de discuter, on va aller à tel endroit, on va se renseigner auprès des peuples autochtones, on va faire des fouilles, on va essayer de mettre ça en évidence. À partir du moment où l'investigation scientifique se développe, ces créatures sont des grands migrateurs, ils disparaissent, ils vont un peu plus loin.
Oui, effectivement. Vous avez cité les sirènes.
Oui.
Qu'en est-il des sirènes ? Ça a été une invention de marins qu'on peut mettre en parallèle également avec le dragon, parce que elle cristallise une angoisse, celle de l'inconnu sous l'eau
et celle de la mer. Qu'elle cristallise aussi la vie des marins qui pendant des mois étaient sans femme
et qui finalement
imaginaient toujours des sirènes avec des seins dignes de ceux de Marilyn Monroe. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est je suis tombé sur un texte norvégien qui décrivait la vague qui joue avec les seins de la sirène. J'ai trouvé ça extrêmement érotique. Et en général, ce genre de descriptions ont été évacuées des textes savants pour des raisons de décence, etc. On les trouve dans les textes populaires. Les gens qui vous racontent, par exemple, j'ai des amis en Norvège, je me suis souvent rendu dans ce pays, et il y a encore des traditions qui ne sont pas si anciennes que ça sur des hommes marins qu'on aurait observés. Et le fameux Pontoppidan, qui est l'auteur de la première histoire naturelle de Norvège, qui était un ecclésiastique, a consacré un chapitre à décrire les monstres des mers de Norvège, alors le serpent de mer, le kraken, et aussi l'homme marin. Il y a tellement de témoignages sur la côte ouest de Norvège qu'on ne peut pas nier l'existence de l'homme marin, puisque dans ce cas-là, il faudrait renier le témoignage humain sur lequel sont basées les sciences naturelles.
Oui. Alors l'homme marin, c'est quoi ? C'est le masculin
de la sirène ?
C'est
un homme, mais un homme aquatique.
Oui.
C'est-à-dire que
avec une queue de poisson.
Avec une queue de poisson, on croyait à l'époque médiévale qu'il y avait, un système de sciences naturelles, la grande échelle des êtres, qui faisait que de l'homme jusqu'à l'ange, il n'y avait pas de solution de discontinuité. Donc, on pouvait très bien, étant donné qu'il y avait des hommes terrestres, on pouvait très bien postuler l'existence d'un homme marin. Vous savez, des gens comme Locke y a même fait allusion, Herder y a fait allusion. La plupart des savants, des érudits de la culture occidentale, on fait allusion à ces créatures de lisière, que ça soit la licorne, que ça soit l'homme marin, que ça soit le dragon, les ont passionnément cherchés. Aujourd'hui, on peut dire que les cryptozoologues sont les descendants, les héritiers légitimes de ce courant. Ils revendiquent d'ailleurs Pontoppidan, qui effectivement, dans son livre, a consacré un chapitre aux monstres marins des mers de Norvège.
Mmh.
C'est un très très ancien courant, ce courant dans lequel s'insère la cryptozoologie, un courant de naturalisation du légendaire qui existe depuis l'Antiquité. Alors, dans certains cas, à mon avis, légitime, dans d'autres, beaucoup plus discutable, parce que finalement, quelque part, on peut dire que c'est une espèce de désir de conserver un quotient de caractère concret à ces créatures. Alors, ça peut se justifier quelquefois, et dans d'autres fois, il faut être beaucoup plus critique. C'est pas simple, c'est pas un domaine dans lequel je prétends avoir trouvé des solutions à chaque fois. Je crois qu'au fond, il faut être très modeste, il faut se dire, il faut se contenter d'essayer d'exhumer des plausibilités d'autrefois, des plausibilités obsolètes aujourd'hui. Nous savons qu'il n'y avait pas de dragons dans les solitudes européennes, mais des gens les voyaient. Alors, il faut essayer de se pencher sur ce vécu, il faut le respecter, de la même façon que j'ai respecté le vécu de mes témoins au Canada quand j'ai fait des enquêtes au début des années 80 sur les monstres lacustres, ou quand j'étais avec François de Closet au bord du Loch Ness. C'est pas le whisky qui crée Nessie. Ce sont des processus très complexes et on ne peut pas rejeter ça. Il s'agit d'une part ni de rejeter le bébé avec l'eau du bain, ni de faire monter l'eau du bain jusqu'à se croire tout et n'importe quoi.
Oui.
Il faut une approche extrêmement mesurée, nuancée et prudente. Il faut dire qu'il y a du réel, il y a du naturel et du culturel. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quelle façon est préparé le cocktail.
Oui, c'est vrai. Dites-nous, puisque vous avez cité Nessie et que vous êtes rendu sur place, quelle est votre opinion à ce sujet ?
Je pense, j'ai consacré un travail entier sur le sujet. Je me suis intéressé énormément aux textes anciens, notamment aux textes des naturalistes. Vous savez, vous aviez certains parmi les plus grands naturalistes des îles britanniques, notamment le fameux Thomas Pennant au XVIIIe siècle, qui s'est rendu au Loch Ness.
Oui.
Personne ne lui a parlé d'un monstre ou d'une colonie de créatures inconnues dans le lac. En fait, il apparaît Nessie à partir de 1933.
Oui, c'est très récent. Oui.
Et pourquoi 1933? Parce que vous avez en 1933 la fameuse crise de 1929, la mal nommée, frappe l'Écosse de plein fouet en 1933. Le Loch Ness était le lieu de villégiature favori des Britanniques. Vous aviez sept bateaux à vapeur qui faisaient le tour régulier du Loch Ness à l'époque de la reine Victoria.
Ah bon?
Et brusquement, cet endroit où il y a des papiers gras, j'ai même trouvé un texte du 19e qui dit en fait le Loch Ness est pollué à la fin du 19e. Bon, cet endroit de pollution et de papiers gras est déserté en raison de la grande crise. Elle frappe tellement l'Écosse que vous avez des gens qui vont dans les cinémas pour se réchauffer. Et j'ai trouvé un texte de l'époque qui dit qu'il existe ou non, Nessie est un grand ami de l'Écosse parce qu'il a permis aux gens de trouver du travail, à une chaîne d'autobus de se construire d'Inverness jusqu'au Loch, etc. Alors, je ne prétends pas que c'est une affaire de tourisme, d'hôtelier, mais je crois que ça a aidé dans une situation particulièrement critique. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont voulu, à toute force, essayer de justifier la légende du cheval des eaux, qui est une légende séculaire qu'on trouve dans la culture gaélique, la culture écossaise traditionnelle, sur un être, mais qui est un être surnaturel qui vivrait dans ces eaux. Donc il y a des gens qui, effectivement, ont voulu, en s'appuyant sur une série de choses très évanescentes, comme certaines vagues, certains bouillonnements bizarres, etc., certains phénomènes qui sont des phénomènes souvent obscurs.
De bois qui remonte à la surface, hein, c'est ça, oui, je crois aussi, il y avait ça aussi.
Voilà, et alors à partir de ce moment-là, on pense même qu'à l'époque, un phoque avait pu effectivement remonter la rivière Ness en venant de l'océan et batifoler dans le Loch Ness. J'ai trouvé par exemple un témoignage d'un type qui dit « j'ai vu le plus grand phoque que j'ai jamais vu dans le Loch Ness à cette époque-là ». Donc avec des gens qui ne sont pas habitués, parce qu'un phoque c'est quand même une créature, quand on n'est pas habitué, qui est extrêmement intrigante. Ou même j'ai vu par exemple dans la région, dans d'autres lochs, sauter des saumons, c'est extrêmement impressionnant. Donc finalement, la plupart des gens qui voient Nessie, ce ne sont pas des Écossais. Ce sont des Anglais, des Américains, des touristes venus du monde entier. Et le ballet d'oiseaux aquatiques, c'est quelque chose qui peut vous tromper énormément. Moi, j'ai été trompé, par exemple, dans un autre loch, le Loch Shiel, où il y a encore, bien entendu, il y a encore une légende de monstre, par des vagues qui léchaient des rocs, et vu d'une certaine distance, on aurait dit des bosses. C'était extrêmement impressionnant. J'ai discuté avec des gens du coin qui m'ont dit, mais nous-mêmes, par certaines époques, on est impressionné par des choses tout à fait communes, mais qui, dans ce paysage magique, prennent un halo. De toute façon, moi je conseille aux gens qui veulent se renseigner là-dessus d'y aller, parce que qu'il y ait un Nessie ou non, les lochs écossais, ce sont des véritables merveilles, ce sont des endroits magnifiques, et on comprend quand on y est pourquoi les légendes se sont fixées sur eux, parce que ce sont des endroits d'enchantement et de magie.
Qui respirent vraiment ça, qui incitent à ça.
Ah, tout à fait. Et les Écossais sont des gens passionnants, parce que ce sont des gens qui aiment beaucoup les Français, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a été liés par la vieille alliance, la Hauld Alliance contre les Anglais, hein. Et ils s'en souviennent encore aujourd'hui. C'est un peuple qui est extrêmement fier, à juste titre, de son histoire. Et de toute façon, c'est des gens très ouverts, en plus qui aiment la bonne chair, ce qui n'est pas une chose à rejeter.
Ils sont très conviviaux.
Moi, je dis toujours aux gens, discutez avec les gens du coin, plutôt que de vous faire une opinion à distance, allez sur place, discutez, examinez les lieux comme je l'ai fait en Écosse, j'ai fait en Suède et en Norvège, dans différents coins. Vous savez qu'en Suède, vous avez aussi un lac à Mons qui est le lac Storsjö, ce qui veut dire en suédois le grand lac. Et là encore, vous avez des traditions, là encore, vous avez des observations. Je me suis même fait photographier avec un piège gigantesque qui avait été construit à la fin du 19e siècle pour attraper le monstre. Alors c'est une sorte de piège à loup, mais surdimensionné.
Oui, et le monstre consiste en quoi, là, cette fois-ci?
Comme d'habitude, il n'y a pas une description, il y en a 10. Là encore, on parle de cheval des eaux. Et à partir du moment où vous avez d'autres stéréotypes qui se développent, comme par exemple le stéréotype du monstre des temps perdus, du Loch Ness, qui était un plésiosaure, donc censé être un grand reptile du secondaire,
avec
rescapé,
un long cou,
etc. Les gens voient, en fonction, ce qui m'a beaucoup intéressé au Canada, c'est de voir que les gens conservent des coupures de presse. Vous avez souvent des dessins représentant des animaux préhistoriques censés habiter dans ces lacs. Et finalement, les gens redéfinissent ce qu'ils ont vu en fonction d'images, de stéréotypes, de conversations qu'ils ont, d'ouvrages, de vulgarisations qu'ils lisent, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de tous les paramètres qui ont pu influencer le témoignage, qui ont pu, d'une certaine manière, non pas le déformer, mais le restructurer
le
autour
nourrir.
De nouveaux modèles.
Ouais. Tout à fait. Michel Meurger, une dernière pause et on se retrouve pour la conclusion dans quelques minutes.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Nous allons bientôt arriver à la fin de cette émission et refermer temporairement ce dossier tout à fait passionnant des dragons avec mon invité Michel Meurger, qui est l'auteur d'Histoire naturelle des dragons, paru aux éditions Terre de Brume. Michel Meurger, pendant cette pause publicitaire, nous avons évoqué rapidement un autre livre, parce que je ne savais pas que vous aviez écrit en Angleterre, publié en anglais donc. Oui. Un livre sur la tradition des monstres lacustres, Lake Monster Traditions. Oui. Et je vous ai dit, mais ça n'a pas été traduit en français.
Non, non.
Pas du tout.
Pas du tout, oh là là.
Ça intéresse personne.
Non. Non, parce que de toute façon, ça c'est un peu une spécialité de nos amis britanniques. Les monstres lacustres, ils y tiennent beaucoup. Et puis, j'ai fait des enquêtes de terrain donc au début des années 80 au Canada, en Suède, en Norvège et en Écosse. Et donc, j'ai recueilli des témoignages directs sur des gens qui racontaient avoir vu des monstres dans des lacs, etc. Et j'ai fait des travaux aussi en bibliothèque pour compléter, pour faire une comparaison. Je me suis rendu compte que finalement, les gens apportaient leur bagage mental avec eux, parce que j'ai discuté avec des témoins d'un petit coin charmant qui est au Québec, ça s'appelle Scotstown, comme le nom l'indique, la ville des Écossais, ça a été fondé par des Écossais, et j'ai discuté avec un témoin d'une famille McRae. Donc ce témoin avait vu le monstre lacustre local, et d'autres membres de sa famille avaient vu par contre Nessie dans le pays d'origine. Donc finalement, non seulement les monstres sont de grands migrateurs, mais on peut dire que les colons d'un pays emportent leur bagage mental avec eux. Quand vous pensez au nombre de gens qui ont pu s'installer au Canada, chacun a apporté ses traditions de monstres divers et variés. Vous avez par exemple en Colombie-Britannique, vous avez un grand nombre énorme de Suédois qui se sont installés, et comme par hasard, les descriptions qu'ils donnent des serpents de mer ont souvent bougrement à voir avec des représentations de serpents de mer scandinaves. Il y a une espèce de migration de l'imaginaire qui est un phénomène extrêmement complexe. Alors, c'est plus facile de dire j'y crois pas, parce que finalement, là, on se situe dans un domaine relativement simple, bien qu'on puisse prouver pas grand-chose, alors que finalement, il est beaucoup plus passionnant, mais plus difficile, de suivre ces phénomènes de migration culturelle, de sédimentation de certaines représentations dans des cultures locales. Rien ne s'oublie. Au lac Poénégamook, qui est le Loch Ness canadien, j'ai rencontré une dame qui m'a raconté avoir vu une licorne sortir du lac. Alors pourquoi ? Ben parce qu'on parlait avant d'une licorne aquatique, et finalement ces représentations des cultures maritimes se sont redéveloppés, redéployés dans des eaux douces finalement. Ouais. On emporte avec soi des représentations de vaches marines. On parle à Poénégamook aussi de vaches marines. On est à quelques kilomètres du Saint-Laurent. Et à partir de ce moment-là, ces anciennes cultures de marins-pêcheurs, de voyageurs, refont surface dans les lacs, souvent très éloignés de la mer. Vous avez des phénomènes qui n'ont pratiquement jamais été étudiés et que moi personnellement je trouve passionnant. Je discutais avec un ami qui est spécialiste des géants, mais des géants de la Renaissance. Je lui disais finalement le problème, c'est que l'université étudie les géants quand ce sont des beaux géants patinés comme du temps de Rabelais, qu'il y a des textes honorables du XVIe siècle qui en parlent, mais vous n'avez jamais étudié le Yéti, c'est-à-dire que le géant actuel, le géant des traditions actuelles, vous ne l'étudierez pas parce que ce sont des journalistes qui en parlent, ce sont des témoins qui n'ont pas eu la patine respectable du temps. Et finalement, sous nos yeux, se développe un immense imaginaire qui est convoyé par les nouvelles technologies, qui est convoyé par le cinéma, par la radio. C'est un imaginaire qui est 100 fois plus important que celui du Moyen-Âge. Mais finalement, peu de gens l'étudient parce que c'est pas un imaginaire respectable.
Michel Meurger, puisqu'il va être l'heure de la conclusion, je suis obligé de vous poser cette question un petit peu fatidique. Donc, les dragons n'existent pas.
Ils existent dans une certaine dimension. ils existent dans la dimension de nos rêves, de nos espoirs, de nos cauchemars, et cette dimension est tout aussi importante que la dimension du réel, parce qu'on a vécu longtemps avec elle, on continue toujours de vivre par personne interposée avec elle. Aujourd'hui, c'est la peur du cosmos, c'est la peur des visiteurs spatiaux. Au XVIIe siècle, c'était la peur des dragons enflammés. La peur ne cesse pas de frapper à notre porte, mais sous des formes diverses et variées.
Mais dites-moi, Michel Murger, là, cette dame, pour en revenir à ce témoignage que vous avez recueilli, témoignage de première main, hein, que vous avez recueilli donc au bord d'un lac au Canada, cette dame qui vous a dit avoir vu une licorne sortir de l'eau.
Oui.
Je veux dire, vous sentiez en la regardant, une, qu'elle ne mentait pas, qu'elle avait vraiment vécu quelque chose, comment ?
Tout à fait, mais le problème, c'est qu'il y avait des dizaines de gens qui ne demandaient pas non plus, qui avaient vu des choses tout à fait différentes. Alors, supposer une espèce inconnue dans un lac, admettons, mais des dizaines de créatures inconnues tout à fait différentes au point de vue de la forme, c'est impossible. Or, chacun a le même quotient de crédibilité. Et c'est ce qui fait que je ne crois absolument pas du tout à la réalité zoologique ou cryptozoologique de ce type de créatures. Mmh. Je crois simplement au fait que les gens ont tendance, non pas à raconter n'importe quoi, parce que c'est pas n'importe quoi,
oui,
mais à utiliser des modèles collectifs. Vous avez, en tant que modèle collectif, vous avez la licorne, vous avez le serpent à long cou, vous avez le monstre des temps perdus, vous avez le cheval des eaux, et finalement chacun va prendre dans ce vieux stock folklorique populaire des représentations qui correspondent à ce qu'il croit avoir vu. Et il va habiller finalement des représentations très flottantes, très mouvantes, très vagues, avec des représentations beaucoup plus claires, beaucoup plus précises. Tantôt ça sera la licorne aquatique, tantôt ça sera le plésiosaure des temps perdus, tantôt ça sera le serpent de mer. Mais je veux dire, finalement, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont tendance à user d'une panoplie de représentations extrêmement anciennes et pas individuelles. C'est-à-dire que la leçon que j'ai tirée de cette enquête...
C'est collectif, quoi. C'est une mémoire collective, vraiment.
C'est une mémoire collective. La leçon que j'ai tirée de cette enquête, c'est qu'il y a une très vieille mémoire collective traditionnelle qui nourrit les observations individuelles. Et alors, vouloir résumer tout ça en disant « je vais essayer de comprendre l'intervention, la description individuelle » abstraitement, de façon distante de ces traditions, c'est complètement faux. C'est quelque chose qui me paraît très dangereux parce que finalement, c'est faire abstraction de l'élément traditionnel, ancestral de ces représentations qui souvent s'échelonnent sur un passé très ancien. Vous avez des représentations, par exemple, de monstres lacustres en Amérique du Sud qui, des fois, sont enracinés dans des cultures indigènes qui s'étalent sur des centaines et des centaines d'années avec des ruptures, avec des transformations, des mutations de l'imaginaire. Mais vous avez effectivement un rapport de l'individu au collectif. C'est-à-dire, c'est une façon de reconnaître son caractère, moi je dirais, d'individu social, que de prendre les éléments de représentation que vous fournit votre culture.
Oui, mais ils l'ont, puisque vous avez rencontré ces témoins, ils disent l'avoir vraiment vu, c'est-à-dire
mais
vu avec leurs yeux.
Mais de la même façon que dans mon livre « Histoire naturelle des dragons », vous avez au 19e siècle une chasse au serpent géant qui s'est déroulée dans le sud de la Suède, le fameux Lindworm, qui a été initié par un très grand technographe suédois qui s'appelle Gunnar Olof Hilton Cavalius. Bon, il avait promis une somme énorme à celui qui lui ramènerait une de ses créatures. Comme d'habitude, personne ne lui a rien ramené. Il a quand même publié une brochure absolument passionnante où il raconte non seulement des rencontres avec des serpents de 4-5 mètres de long dans le sud de la Suède, au 19e, mais aussi des combats. Et alors les gens, mais il dit, vous vous êtes battu avec lui, vous l'avez enterré, creusé. Le gars creuse, il trouve rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces choses s'échappent comme « the stuff of dreams » de Shakespeare, l'étoffe des rêves, mais elles se rapprochent suffisamment pour nous intriguer, pour nous inciter à rechercher. Il y a un élément de tentation dans cet imaginaire, c'est-à-dire que quelque part, on nous tend un miroir, mais c'est nous qui nous voyons dans le miroir, et pas le serpent géant, et pas le dragon, et pas la licorne, ni l'homme marin. C'est-à-dire que quelque part, nous voyons nous-mêmes, nous voyons nos peurs, nos espoirs, disons les peurs et les espoirs collectifs, pas des individus, mais de toute une série de sociétés qui se sont métissées, qui se sont entremêlées, qui se sont combattues, mais qui ont aussi marié différentes représentations. C'est toute l'histoire du Canada, c'est toute l'histoire de la Nouvelle-France.
Effectivement. Michel Murger, j'ai passé vraiment une heure et demie délicieuse en votre compagnie et appris plein de choses, ce qui est pas mal quand même.
Je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'abord de lire mon livre parce que c'est
tout
une bonne
fait.
Clé
ouais.
d'ouverture pour cet imaginaire et d'autre part de voyager, c'est-à-dire qu'il faut aller au bord du Loch Ness, il faut se rendre à Lucerne, la capitale des dragons, pour voir la pierre de dragon au musée de géologie. Oui. Il faut aller, si possible, au Canada pour voir ces grands lacs passionnants, poétiques. Il faut faire un trajet de voyageurs. Il faut reprendre effectivement le trajet des voyageurs comme Samuel de Champlain, Jacques Cartier, parce que Champlain, lui, évidemment, a vu quelque chose d'étrange au lac qui porte son nom. Il faut toujours, je crois, quelque part, reprendre le bâton de pèlerin, oui, en sachant où on va et comment on y va.
Merci beaucoup, Michel Murger. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire naturelle des dragons. C'est paru aux éditions Terre de Brume. À très bientôt, j'espère, dans Les Aventuriers de l'étrange.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, Les Aventuriers de l'étrange.
Vous le savez, les soirs de Noël, il se passe toujours des choses exceptionnelles qu'il ne se passe pas d'habitude durant les autres nuits. Alors peut-être que cette nuit, vous allez croiser une licorne, voire peut-être passer dans le ciel un dragon, croiser votre lutin de maison ou voir fort probablement cet être tout à fait hors du commun et complètement paranormal qu'est le Père Noël, arrivé chez vous, sur votre toit, se garer devant avec ses rennes. Je vous souhaite plein de belles surprises, plein de belles rencontres tout à fait adorables et douces. Bon Noël, évidemment. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission. Merci à Pierre Massiès qui m'aide à la construire. Et puis rendez-vous, évidemment, le week-end prochain ou le soir du premier de l'an. Il n'y aura pas d'émission exceptionnellement puisqu'il y a une émission. Tous les animateurs, nous allons nous retrouver, les animateurs de Sud Radio, pour faire la fête ensemble. Mais en revanche, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi soir de 22h à minuit.